Dans l'idée développée par Aristote, il y a cette dimension que l'être humain éprouve en lui des désirs dont il n'est pas la source, dont il n'est pas la source libre. Donc le mot nature ici désigne quelque chose qui ne dépend pas de mon bon vouloir, ne dépend pas de ma décision. Parce que pour Aristote, la nature, c'est un principe de devenir, c'est un principe de mouvement. Mais qui dit mouvement, qui dit devenir, dit orientation. Quand vous dites j'y vais, bah on peut vous poser la question, mais tu vas où ? Donc dès qu'il y a un mouvement, on peut se poser la question de la finalité de ce mouvement. Que ce soit un mouvement de déplacement, hein, je pars, bah, où pars-tu ? Que ce soit un mouvement, par exemple, de croissance, hein, un arbre qui se déploie, bon. Bref, pour Aristote, le devenir, il est toujours finalisé. Il a toujours une finalité. Et donc, principe de devenir, ça veut dire que l'être humain, aussi l'être humain, bien sûr, c'est pas propre à l'être humain, en tant qu'il est un être naturel, a en lui des inclinations qui le portent à certains actes, et à travers ces actes, il se bonifie. À travers ces actes, il se réalise. Alors évidemment, cette dimension naturelle de l'être humain ne s'oppose pas à la liberté, attention. Elle ne s'oppose pas à la liberté, parce que dans le cas de l'être humain, ces inclinations naturelles se réalisent souvent par des actes libres. Prenons un exemple très simple. Hein, ce désir naturel de vivre, ce désir naturel de persévérer dans notre vie, nous incline, nous incite à nous nourrir et nous éprouvons en nous cette inclination à nous nourrir. Par exemple, les moments où j'ai faim, je ne choisis pas d'avoir faim. Bon. Mais évidemment, la manière dont je vais réaliser ce désir, ça va dépendre de moi. C'est moi qui vais décider d'aller déjeuner à telle heure, enfin, moi ou... Disons, c'est l'objet d'un choix, personnel ou collectif, peu importe. C'est l'objet d'un choix d'aller se nourrir à telle heure, d'aller manger telle chose et pas telle autre, etc. Donc, tout ça pour dire que la liberté, qui est au cœur évidemment de l'amitié, on va voir, et de l'amour, la liberté, elle est ici comme au service d'une inclination, d'un désir naturel. D'accord ? Et ce désir naturel, pour Aristote, il est comme le ressort de notre liberté. Notre liberté de choix, notre liberté de choix, elle est, on pourrait dire, elle repose sur ces inclinations, sur cet élan. Bon. Alors, si il est conforme à la nature que l'homme, que le mari et la femme se portent un réel amour, c'est que il y a une finalité qui permet à l'homme de se réaliser comme homme. Une finalité qui permet à l'être humain, hein, là c'est homme et femme bien sûr, de se réaliser comme véritablement dans son humanité. Et cette dimension, en fait, Aristote, bien avant le christianisme, et dans un contexte pourtant social qui, sous bien des rapports, était très différent du christianisme, hein, la condition de la femme à Athènes était, comme vous savez, était quand même assez, assez différente de ce qu'elle sera plus tard et a fortiori aujourd'hui. Malgré ce conditionnement social, Aristote envisage justement cette beauté de l'amitié conjugale et ce rôle central de l'amitié conjugale et de sa dimension politique. Alors il y a d'un côté la procréation, je vais y revenir, qui est évidemment un des aspects essentiels du rapport entre sexualité et politique. Mais il y a aussi, je tiens quand même à le souligner, il y a aussi ce que Aristote ici appelle une aide mutuelle. Ils se portent une aide mutuelle, mettant leurs capacités propres au service de l'œuvre commune. Il y a cette aide mutuelle, cette coopération du mari et de la femme. Alors, évidemment, Aristote ne parle pas de communion, hein, c'est pas, Aristote n'est pas Jean-Paul II, même si Jean-Paul II a beaucoup travaillé Aristote. Il n'y a pas la communion, mais il y a cette aide mutuelle, et il y a même un autre aspect. Lorsque cet amour est fondé sur la vertu, sur cette disposition à poser des actes qui me réalisent pleinement, il y a quand même cette belle expression « tous deux mettront leur joie en la vertu de l'autre ». Je trouve que c'est une très belle expression. « Mettre sa joie dans la vertu de l'autre ». Et le mot « vertu » ici, chez Aristote, hein, c'est pas, comme vous savez, simplement une sorte de respect un peu étriqué d'un devoir social. Non, ici, « vertu », ça veut dire « excellence ». Ça veut dire la réalisation de soi-même. Mettre sa joie dans la vertu de l'autre, c'est tout simplement progresser vers une véritable unité, une véritable communion, dans un bonheur mutuel. Et pour Aristote, ça a une dimension politique. Parce que la cité, pour Aristote, c'est une communauté de citoyens. C'est une communauté de citoyens. Et tout ce qui peut permettre aux citoyens de grandir en vertu et en bonheur, tout cela, on pourrait dire, irrigue la vie de la cité. La cité, on pourrait dire, elle a intérêt à avoir des citoyens vertueux et heureux. Et des citoyens qui, justement, découvrent dans l'amitié, et notamment ici dans l'amitié conjugale, cette joie de la vie commune. Donc ici, évidemment, chez Aristote, hein, il y a tout un rapport entre la vie personnelle et cette communauté de citoyens. voyez qu'on est une réflexion qui est quand même assez différente de la nôtre, parce que quand vous avez des amis, hein, vous ne dites pas, ah ben, cette amitié, elle contribue au bien de la société politique à laquelle j'appartiens. Enfin, peut-être que certains se disent ça, mais la plupart du temps, on se dit, bah, c'est ma vie privée, c'est ma vie personnelle, ça ne regarde pas les autres. Sous un certain rapport, c'est exact. Sauf que, en fait, pour Aristote, qu'est-ce qui anime la vie de la cité? Qu'est-ce qui fait qu'une société politique progresse vers son bien? Ce sont les actes, chaque acte que les membres de cette cité posent. Vous voyez ? Finalement, la vie politique, et c'est important de bien le comprendre au début de ce module, puisqu'on va ensuite développer toutes sortes d'autres perceptions, mais de réaliser à quel point les sociétés humaines sont soutenues, sont, comment dire ça, sont constituées par tous les actes que nous posons dans notre vie quotidienne. Il y a une dimension, en fait, sociale et politique de nos actes, et même des actes, justement, qui peuvent apparaître comme non politiques. Parce qu'ils ne sont pas directement politiques. Vous voyez ? Si, évidemment, on limite le mot politique à le fait d'aller voter, le fait d'aller, d'aller discuter avec des gens sur certains sujets qui sont en débat pour les élections, évidemment, si on limite le mot politique à ça, on va dire le fait d'aller prier ou le fait d'entretenir mes amitiés, c'est pas politique, bien sûr. Mais là, on se donne justement une conception réduite de la politique. Parce que la politique, c'est justement, si l'homme est un animal politique, comme le dit Aristote, si l'homme est un animal politique, c'est que dès que nous posons des actes, en tant même que nous sommes membres de différentes communautés, ces actes ont une certaine fécondité sur cette communauté ou sur ces diverses communautés. Une fécondité, soit bonne, soit mauvaise, bien sûr. Oui. C'est d'une certaine manière tout ce qu'on appelle, ou tout ce qu'on appellera plus tard, les mœurs. Les mœurs, qu'est-ce que c'est que les mœurs ? Qui est souvent vu comme l'objet de la sociologie. Les mœurs, c'est nos manières de vivre, nos manières d'agir. Mais manière de vivre et manière d'agir, ça renvoie à quoi ? Ça renvoie à tous les actes que nous posons au quotidien. Vous voyez ? Donc, il faut essayer, vous voyez, au début de ce cours, de faire peut-être plus de liens entre les différentes parties de notre vie qu'on a l'habitude d'en faire. Parce que souvent, pour toutes sortes de raisons, bonnes ou moins bonnes, on a tendance souvent à cloisonner un peu notre existence ou notre manière de voir notre existence. Alors, c'est tout à fait légitime. Sauf que là, justement, ce texte d'Aristote nous dit, dans l'amour conjugal, il y a un enjeu politique.